Spéciales, les célibataires, les visages pâles, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fondues, et je devine des histoires de fondues, c'est comme ça.
Minino Garay revient de France pour anticiper son nouvel album, Minino Garay and the Tunga Tungas. Percussionniste, né à Córdoba en Argentine, il réside à Paris depuis la fin des années 1980. Bonjour Minino, comment allez-vous ?
Très bien, bonjour Eric.
Vous vous souvenez certainement de cette présentation, c'était dans le programme Les Années Bonheur avec Patrick Sébastien, France 2, un 11 janvier 2014.
Oui, je me souviens très bien parce que j'étais pas mal critiqué dans l'ambiance de jazz dans laquelle je fréquente depuis beaucoup d'années.
Ah d'accord, bon, mais enfin c'est quand même un bon souvenir pour vous.
Mais pour moi, un très très bon souvenir.
Ah bon, tant mieux. Mais avant de parler de votre carrière, Minino, et de votre présence actuellement en Argentine, racontez-nous un peu, qu'est-ce que fait un cordobés à Paris ?
Mais tout simplement, quelqu'un qui veut faire des choses un peu différent par rapport à ce qu'ils font les autres Argentins. Il faut comprendre que l'Argentine, bon, il est plus connu dans le milieu du monde avec la musique de tango et certains autres musiciens dans le classique, dans plein de musiques différentes. Moi, je me suis différencié par rapport à que je suis un percussionniste qui connaît très bien sa tradition argentine et sud-américaine. Donc c'est pour ça que je peux apporter à la musique en France beaucoup de choses depuis ces 30 dernières années, avec plus de 1250 albums que je réalise et que je jouais pour des gens, non? Donc c'est quand même quelque chose d'énorme par rapport à maintenant qu'on n'enregistre pas beaucoup, de mois en mois.
Oui, exactement. Mais vous êtes parti en France pour quelle raison?
Mais pour la raison de découvrir des choses nouvelles.
D'accord.
J'avais 20 ans, donc... C'était vouloir continuer ma carrière dans un autre pays.
L'âge idéal, sans doute.
Pardon ?
C'était l'âge idéal, 20 ans ?
Oui, complètement. C'était l'âge idéal, c'était le moment idéal pour moi. Et oui, ça marquait quand même ma vie. Maintenant, justement cette année, je fais tous les papiers pour faire la nationalité française. Et donc, oui, à partir de... De maintenant, je me pense que plus de la moitié de ma vie, je l'ai fait en France.
Donc. Oui, exactement. Mais bon, le contraste était tout... énorme.
Oui. Ça va continuer, sauf que oui, j'ai une forte, déjà un fort accent. Et déjà, je viens d'une ville qui c'est Córdoba, c'est comme Marseille en France.
Oui.
Dans laquelle il y a toute une musique, qui c'est la musique populaire de ma ville, le quartet, le cordobés ou le tunga-tunga. Que c'est vraiment un mélange de musique d'immigrants, de passodobles et de tarantelles. Donc, ce dernier album qui va sortir en octobre, novembre, ici en Argentine, c'est basé sur cette musique de ma ville. C'est la musique que j'ai dansée de tout petit, c'est la musique que j'ai écoutée de tout petit. Donc, c'est vraiment une musique très festive et avec beaucoup de bonheur. Justement, ce vendredi 18 mai, je serai avec... je vais commencer à faire quelques titres du prochain album.
La musique, vous venez de le dire, fait partie de votre vie depuis votre plus jeune enfance. Et si je ne me trompe pas, votre mère, Nuri Taborda, était elle-même compositrice, non ?
Elle est compositrice, elle continue à composer, on continue à travailler ensemble. Elle travaille pour des autres artistes aussi. Justement, il y a un autre artiste franco-israélien qui s'est installé en Argentine depuis 12 ans. Donc, il est quand même pas mal ici. Il s'appelle Alex Pandev, donc qui vient de faire sortir. Il va sortir le mois d'août aussi son premier album en espagnol.
Et c'était comment la maison à Córdoba, alors cette enfance en musique?
Et c'était une maison, bien sûr, à la fois très joyeuse, et c'était une maison où la musique elle était très présente, parce que ma mère, elle était expulsée de l'université, justement, quand ils sont arrivés les militaires. Uh-huh. Elle était jetée dehors, elle était dans une liste noire, donc elle ne pouvait pas travailler. Et donc, et tout de suite après, elle n'a pas fait un exil, elle n'a pas pu faire un exil, comment dire, en dehors du pays, parce qu'elle n'avait pas de l'argent, la famille n'avait pas d'argent pour sortir. Donc, il a rien fait, juste au moment que son frère, qui était producteur d'orchestre, il a commencé à commander des chansons, parce qu'il commençait déjà à écrire des textes pour les orchestres, et après il a commencé à composer directement.
Et parlons un peu alors de votre nouveau travail. Vous nous avez déjà anticipé un petit peu que le Quartetto a des origines immigrants, italiens, espagnols, non? C'est bien cela?
Exactement, exactement. C'est vraiment les deux plus grandes communautés qui sont influencées la musique du Quartetto, c'est la communauté italienne et l'espagnole. Et
à l'origine, le Quartetto, c'était quatre, mais maintenant, c'est un peu plus, non, souvent?
Exactement. À l'origine, c'est quatre musiciens avec contrebas, basse, piano, accordéon et violon.
Exact.
Et c'est la base. Après, ils ont commencé à arriver des petits instruments de percussion, comme le guiro en bois, la pandereta, non, le tambourin. Et bon, après, ça a électrifié. Après, ça a commencé à arriver la batterie, la guitare électrique. Et après, maintenant, sont des orchestres qui sont vraiment des cuivres avec quatre percussionnistes. C'est plus comme des orchestres latinos. Et cet album que j'ai fait, je respecte plus ces quartetto caractéristiques avec l'accordéon, le violon, et le basse et le piano.
Ah, comme dans les années 60 à peu près.
Exactement.
70, oui.
Exactement, je respecte beaucoup plus ça. Je fais une reprise de Les Yeux Revolver, sauf qu'en espagnol. Et après, je fais une reprise aussi d'un titre de Paolo Conte, très connu pour Adriano Celentano en italien aussi, parce que un peu rendre hommage à la musique populaire de Cordoba, je rendre hommage aussi à la musique italienne qui a influencé beaucoup notre musique, bien sûr, avec toute la communauté italienenne.
Votre disque s'appelle Minino Garay de Tunga Tunga. Qu'est-ce que le Tunga Tunga?
Tunga Tunga, c'est comme ça qu'on appelle le rythme de Cordoba, le quartetto. On appelle ça Tunga Tunga.
Et quelle est sa relation avec l'histoire argentine? Parce qu'il y a une histoire derrière tout cela.
De qu'il y a derrière
le Tunga Tunga, non? Pendant la dictature, par exemple, c'était...
Oui, bien sûr, c'était, il faut comprendre que le rythme du quartetto, c'était un des rares rythmes, c'était interdit de faire le rythme du quartetto. C'était quelque chose d'hallucinant, c'était l'unique rythme qui était interdit de jouer. On ne pouvait pas jouer le rythme du quartetto. Donc, quand quelqu'un sortait un album, il devait changer le rythme. Pourquoi? Parce que ce rythme s'attirait beaucoup de monde et on ne voulait pas qu'il y ait des gens ils se trouvent pour danser cette musique. Ça évitait des problèmes, on va dire.
Ah oui, bien sûr. Bon. Rappelons que à Cordoba, bon, dans tout le pays, mais à Cordoba en particulier, la dictature a fait vraiment de grands dégâts, non seulement physiques avec la répression, mais aussi culturels.
Culturels, exactement. La répression, c'était même dans les styles de musique, chose que ça ne passait pas en Buenos Aires. On n'interdisait pas le rythme de tango, on n'interdisait pas le rock, on interdisait certains artistes.
Exact.
Bien sûr, mais pas, on n'attaquait pas la musique en soi-même.
Bon, cet album va sortir, vous l'avez dit, en novembre 2018, avec des invités, on peut en nommer quelques-uns. Mona Jiménez, bon, très connu bien sûr en Argentine et à Córdoba, Carlos Puebla Rolán, Ariel Ferrari, Los Caligaris, Fernando Blades, Alex Pandev et Lore Jiménez, non? Mais avant, vous vous présentez vendredi 18 mai à La Tangente à Buenos Aires, à Honduras 5317.
Exactement, là je serai ce vendredi, pas avec ces invités, sinon déjà en train d'essayer de voir comment ça marche peu à peu avec l'équipe d'ici de Buenos Aires, des musiciens qui sont de Córdoba installés à Buenos Aires, et déjà commencer à donner quelques titres, tu vois, pour préparer l'ambiance pour la fin de l'année.
Ah, vous prévoyez un retour à la fin de l'année, c'est bien ça?
Bien sûr, bien sûr. Normalement, je suis beaucoup plus souvent. Le mois d'août et début septembre, je serai aussi ici à Buenos Aires. Mm-hmm. Alex Pandev va présenter son album, donc je serai sûr avec elle. Et normalement, j'ai un concert le 9 septembre à la Usina de l'Arte avec mon quartetto Blue Jazz. Oui, je serai souvent ici.
Bon, j'allais vous demander vos projets, mais vous venez à peu près de les détailler, donc les prochaines présentations d'ici la fin de l'année.
Exactement, exactement. Et après, avec Alex Pandev, justement, on a créé un festival de musique franco-argentin que ça va, que on l'a fait déjà l'année dernière à San Rafael de Mendoza et qui s'appelle Divino Festival. et ça passe entre les 22 novembre au 25 novembre, entre San Rafael de Mendoza et Mendoza Capital.
Ah, parlez-nous un peu plus de Divino Festival. Quel est, enfin, le rythme, ou y a-t-il un rythme défini?
Mais le Festival Divino qu'on a créé avec Alex Pandev, c'est un festival basé sur la musique, sur la bonne musique. Donc, on amène des artistes français, une dizaine d'artistes français qui se mélangent avec des artistes argentins, peu importe que ce soit de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. Donc, comme moi, je joue avec tellement de musiciens, j'amène tous ces musiciens et je les fais partager la scène aussi avec des musiciens argentins. Et je connais le répertoire de tous les artistes que j'amène, et donc, et comme ça, et ça se crée quelque chose, une relation concrète avec les artistes d'ici. Alex Pandev, il dirige une partie d'un festival qui s'appelle Divinas, qui se dédie exclusivement aux femmes.
Oui.
Donc, et dans chaque ville qu'elle va, elle invite des artistes femmes, que ce soit à Mendoza ou à San Rafael, et elle partage la scène avec eux.
Ah bon, comptez sur nous alors pour en parler en octobre,
ah oui,
novembre.
Oui, hein. Oui, ah oui, ça c'est vraiment très important parce que ce Festival Divino, comme je vous dis, ça se fera le prochain, l'édition 2018. C'est un festival franco-argentin.
Parfait.
Où il y a l'Institut français, il y a l'Alliance française, l'ambassade française, tout, qui met tout l'effort pour que ça se réalise la deuxième fois à San Rafael de Mendoza et Mendoza Capital.
Parfait, comptez sur nous. Écoutez, Minino Garay, bon séjour en Argentine. Et pour
Merci.
Nous quitter, présentez-nous vous-même la vie d'un joda. La vie, ce n'est pas de la blague.
Exactement, la vie d'un joda, c'est un titre justement de Nuri Taborda, et il parle de cette réalité de la vie, non? Et que la vie, c'est que vraiment, ce n'est pas une blague. Vraiment, il faut respecter la vie, justement.
Bon, alors on va l'écouter ensemble. Encore merci, à bientôt et bonne route. La vida.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Así es la vida, en verdad no es joda. Y ni lo pienses, tómalo con soda. Tómate un vino y brinda conmigo. La vida es buena teniendo amigos. A tiempo andamos y se va la vida. Vas madurando en todo tu ser. Vas cometiendo algunos errores y te van quedando cosas sin saber. Vas cometiendo algunos errores y te van quedando cosas sin saber.
No es joda, la vida no es joda.
No jodas al buen si no palo viene.
No es joda, la vida no es joda.
No jodas al buen si no palo llega. Andar caminos, buscando siempre la vida segura. Unos derrapan en carros de marca, otros zapatan con sus amarguras. Y se va yendo y se va la vida. Pasan los años, fortuna y amor. Se van quedando zapatos gastados, unos pies hinchados y algo de valor. Se van quedando zapatos gastados, unos pies hinchados y algo de valor.
Si no palo viene, 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 viene.
país, la plata.